Europe 1, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. C'est avec un personnage que nous partons en balade aujourd'hui, le comédien Michel Faux. 35 ans qu'il joue au théâtre, une centaine de pièces, dont un tiers qu'il a lui-même mis en scène. Il aime l'extravagance, la noirceur, le rire et le drame. Il a remis à la mode au théâtre ce soir. Aujourd'hui, il joue Trahison d'Harold Pinter au théâtre de la Madeleine. Il nous a donné rendez-vous dans un restaurant dans le centre de Paris.
Frédéric Taddeï. En balade avec Michel Faux sur Europe 1.
Tu veux régler, Michel, s'il te plaît.
Bonjour, Michel Faux.
Bonjour.
Nous sommes chez Georges, 1 rue du Mail, un restaurant né comme vous en 1964.
Absolument.
Un restaurant français traditionnel avec sa façade en bois, ses banquettes rouges, ses nappes blanches. On se croirait un peu dans un film de gangster avec Jean Gabin et Lino Ventura.
Absolument. Et Paul Francoeur,
ouais. Et Paul Francoeur, ça mérite.
Mais c'est ça. Les...
Genre d'endroit où on fait des repas solides. Hein. Terrine de foie de volaille, andouillette, riz de veau, profiterole.
Et là, j'ai pris un trou normand pour terminer le repas. Le trou normand, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. Le sorbet arrosé de Calvados. Pour faire digérer, soi-disant, à la base.
C'est le but, oui.
Ouais. Et puis les serveuses ont des tabliers blancs, ce qui est très, très joli.
Et vous, vous portez toujours un gilet sous votre veste de costume. Voilà quelque chose qui ne dénote pas dans cet endroit.
C'est pour cacher mon ventre, en fait.
Ah, c'est pour ça ? C'est drôle. Il m'a toujours paru un nostalgique égaré dans une époque trop diététique.
Absolument.
Je ne vous imagine pas du tout nouvelle cuisine.
Non, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas, en fait. Oui, oui, bien sûr. Il y a des acteurs qui mangent des graines ou du riz dans un tupperware. Ça, non, moi, c'est pas... Moi, j'aime bien quand il y a l'entrée, le plat et le dessert.
Mais voilà. Pourquoi ? Parce que vous aimez rester à table ? Vous aimez discuter avec les gens ? Au fond, c'est le lieu de conversation.
Oui, mais j'aime bien le dîner en tête-à-tête. J'aime pas les grandes tablées, là. Ça,
ah bon ?
Ouais. J'aime pas quand il y a trop de monde, en fait. Mais je suis pas très bistrot, je suis plutôt restaurant, en fait. Mais depuis toujours, même quand j'avais pas d'argent, j'allais au restaurant.
Par goût, pour...
Ah oui, je trouve ça...
Pour la théâtralisation qu'il peut y avoir dans les restaurants.
Il y a quelque chose de solennel et de sacré là-dedans. Gloire à Bacchus.
Je pense que vous aimez tout ce qui est excessif. Pour vous, c'est ce qui n'est pas excessif, qui est insignifiant.
J'aime pas la demi-teinte, en fait. J'aime bien la neige et le feu, mais entre deux, j'aime pas trop.
Au fond, vous aimez le théâtre de boulevard, l'opéra, les tragédies de Racine, la chanson réaliste, les alexandrins, les plats en sauce.
Oui, tout ce qui est boursouflé, en fait, on va dire. Tout ce qui est un peu indigeste. Ouais.
Et pourtant, vous êtes quand même resté assez fin de silhouette.
Oh, je fais des efforts, mais je fais... Mais c'est dur quand même. Mais je veux pas me priver de la joie de. C'est une joie, hein, la joie du vin et de la bonne chair. J'ai dit à mon médecin si je dois plus boire et plus manger, alors là ça m'intéresse pas. Non mais c'est vrai, c'est un des rares plaisirs de la vie.
Frédéric Taddeï se balade avec Michel Faux sur Europe 1.
Comment s'est passée votre enfance à Agen dans les années 60?
Oh, j'étais assez dépressif comme garçon, un peu limite autiste. J'étais enfermé dans ma chambre, je lisais des livres. Voilà. Et je rêvais d'aller à Paris. Et alors j'allais à Paris une fois par an, voir des spectacles.
On pouvait s'ennuyer à l'époque, c'est ce qui faisait qu'on lisait. Hein.
Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être la vérité. Mais je pense que d'avoir lu très tôt Dostoïevski, Albert Camus, Monterland, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'autrement, j'aurais pu faire des bêtises, en fait.
Vous suicidez, vous voulez dire ? Ou devenir gangster.
Ou mettre une bombe quelque part, quoi. Vraiment, j'avais un côté comme ça, punk un peu, nos futurs. Mais je pense que souvent, les jeunes qui font des bêtises, les délinquants, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu la chance de côtoyer la beauté. Ça sauve quand même de lire.
Bah, Dostoïevski, ça peut vous vacciner contre le terrorisme, parce que le portrait qu'il fait d'eux.
Absolument.
Quand on a lu Les démons, en général, on n'assiste pas.
C'est magnifique. L'idiot Dostoïevski, sans doute, s'il y a un livre à lire dans sa vie, c'est ça. L'idiot Dostoïevski, pour moi, c'est... J'ai envie, les gens qui ne l'ont pas encore lu, ils ont de la chance.
Mais à lire tous ces livres, vous n'avez pas pu jouer au rugby, à Agen ?
Si, j'ai fait un peu, c'était obligatoire. Mais j'étais à l'arrière, j'ai discuté. Puis... Par contre, j'aimais bien quand on se jetait dans la boue, là. Ça, c'est...
Vous regardiez au théâtre ce soir, à la télévision ?
Oui, bien sûr. Et, mais il n'y avait pas que ça. À l'époque, il y avait beaucoup de théâtre. Il y avait le dimanche aussi, il y avait la Comédie Française. Il y avait la Royal Shakespeare Company, il y avait même des pièces en semaine. Je me souviens avoir vu Les Bonnes de Jean Genet à 20h30 en 1980. 20h30, Les Bonnes de Jean Genet avec Maria Cazares, Dominique Blanchard et Francine Berger.
En 1980
Ouais.
On s'étonne après que Valéry Giscard d'Estaing ait perdu les élections présidentielles. On voyait des films d'Yves Boisset le dimanche soir à la télé sur TF1.
Bien sûr, évidemment.
Et on voyait des pièces de Jean Genet.
Bien sûr, c'est pas mal. Mais je me souviens que j'avais vu en 79, c'était Loulou d'Alban Berg en direct à 20h30 sur la télé. Quoi. J'étais tout seul, j'avais 16 ans, ça m'avait traumatisé. Donc oui, en effet.
Et qu'est-ce que vous avez mangé?
J'ai mangé une sole meunière avec une salade important. De pommes de terre.
Il y a le pavé du mail aussi.
Délicieux.
Oui, la sauce. Le pavé avec des frites et une sauce délicieuse.
Il y a une sauce à la cognac moutarde, un truc comme ça.
Et vous êtes dos au mur. Ce genre de restaurant, vous avez peur qu'on vous agresse ou...
Non, mais j'aime bien ce tableau. Là, il y a un tableau qui fait un peu Louis XIII, mais revu par les années 60, en fait.
Ouais. Alors, où est-ce que vous nous emmenez
Moi, Paris, Michel pour Faux. Moi, Paris, c'est les restaurants et les théâtres, en fait. Et au début, quand je arrivais à Paris, je me repérais par rapport au théâtre, en fait. Parce que je ne pensais qu'au théâtre. Et à l'opéra, évidemment. Donc.
Ici, on est dans le centre, hein, voilà. À côté de Notre-Dame-de-Lorette.
J'adore ce quartier.
Près de la place des Victoires.
J'adore ce quartier. Et donc, j'aimerais qu'on aille à l'opéra comique, qui est un lieu magnifique, magique.
J'ai passé une partie de mon enfance, je me souviens, j'étais abonné à l'opéra comique. À l'époque, à l'école, on vous emmenait à l'opéra comique. Je ne crois pas que ça se fasse encore, mais peut-être...
Ils font des sorties avec des jeunes spectateurs.
Ouais. Mais nous, c'était régulier. Hein. Je dis Madame Butterfly, ça.
C'est bien. Ouais. C'est ce qui vous a sauvé.
Vous croyez?
Oui, bien sûr. Moi, ça m'a sauvé, la musique, l'opéra, la voix chantée. J'écoute de l'opéra tous les jours. Même quand j'étais très dépressif, il y a 17 ans, je ne sortais pas, etc. J'écoutais de l'opéra. C'était incroyable. Ouais. La force de la voix chantée, quoi.
Ouais. Eh bien, allons-y, quittons chez Georges et dirigeons-nous vers l'opéra comique.
Frédéric Taddeï, en balade avec Michel Faux sur Europe 1.
Nous suivons Michel Faux dans la rue Notre-Dame-des-Victoires. On longe l'église Notre-Dame-de-Lorette. Vous vous plaignez souvent que l'on est moins libre aujourd'hui, moins audacieux qu'on ne l'était avant. Comment l'expliquez-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je sais pas, c'est la raison qui a pris le dessus. Mais c'est surtout...
On est devenu trop raisonnable, c'est ça ?
Oui, surtout dans le milieu artistique, qui devrait être le lieu de l'audace et de la liberté. C'est-à-dire que le raisonnable et le politiquement correct, la morale a même contaminé l'art. C'est ça qui est déplorable. Et moi, j'avais la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, qui était l'avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, l'époque surréaliste, dadaïste. Parce que je trouvais qu'en peinture, en opéra, en cinéma, il y avait des choses très audacieuses. Mais maintenant, j'ai même la nostalgie des années 70, fin 70, début 80, quand j'étais ado, et où il se passait encore des choses très, très, très culottées, quoi, en fait.
C'est pour ça que vous insistez toujours sur le style, notamment dans vos mises en scène de théâtre.
Oui, bien sûr.
Pour vous, le style, c'est le contraire du sinistre.
Non, je pense que la notion de style est essentielle. C'est pour ça que j'aime beaucoup Stanley Kubrick, parce qu'il travaillait sur le style, en fait. Donc il faisait un film, il faisait un polar, après il faisait un film d'horreur, après il faisait un drame psychologique, enfin, il travaillait sur le style. Et cette notion de style, en effet, est très importante. Autrement, tout se ressemble et tout est pareil.
Mais il n'y a pas que des très grands réalisateurs qui ont joué sur le style. On peut dire que Georges Lautner et Michel Audiard, par exemple, travaillaient sur le style.
Bien sûr.
Et on reconnaît tout de suite... Un film de Georges Lautner.
C'est le style. Oui, et je pense que tout est histoire de code de jeu. Il n'y a pas un code de jeu qui est plus légitime qu'un autre. Le cinéma muet, par exemple, le jeu expressionniste du cinéma muet, quand on voit les films de Fritz Lang, il est aussi légitime que le cinéma de Claude Sautet. Quoi. Il n'y a pas un cinéma qui est plus, soi-disant, plus naturel ou plus légitime.
En même temps, être raisonnable, c'est une spécialité française. Aux enfants, on leur dit « sois raisonnable ». Les mamans anglaises disent à leurs enfants « be good ». Et les mères allemandes leur disent à leurs enfants « sois brave, sois courageux ».
Oui, mais juste
nous, on dit « sois raisonnable ».
Absolument. Il faudrait plutôt être courageux. Non, mais c'est surtout que ce qui est triste, c'est que ça touche le milieu artistique. Alors, si le milieu artistique devient aussi raisonnable que les petits bourgeois, c'est pas la peine qu'il y ait des artistes, en fait.
Mais alors vous avez dû toujours faire tâche. Parce que vous commencez à monter sur les planches au milieu des années 80, et j'imagine que déjà, vous voulez être stylé, subversif.
Non, je ne me pose même pas la question. J'ai pas vraiment d'éthique, en fait. Je fais ce que je peux faire, en fait, et ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, c'est quelque chose d'extravagant, de grandiloquent, de décadent, peut-être. Voilà, je suis comme ça. Je fais ce que je peux, en fait. Mais en effet, c'est très dur, et c'est toujours très dur, en fait.
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, oui, bien sûr.
Toujours blacklisté dans certain nombre de théâtres.
Bien sûr, et puis la critique me le fait sentir régulièrement.
Pourtant, vous avez du succès, vous attirez du monde.
Oui, mais ça n'a aucun rapport. Et justement, je lisais un livre sur Stanley Kubrick qui disait qu'il avait toujours eu des mauvaises critiques. C'est quand même incroyable. Il n'a jamais eu d'Oscar.
Europe 1, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Nous sommes sur la place de la Bourse, avec au milieu, juste devant nous, le palais Brongniart.
Très beau bâtiment.
Ouvert en 1807, qui a été la Bourse de Paris pendant 2 siècles.
Bien
sûr. Il a fermé en 1998. On y organise aujourd'hui des événements, des expositions, des soirées dansantes.
On dirait un opéra.
Oui, il y a une grande colonne.
Ouais. Il ressemble à l'opéra de Bordeaux, en fait.
Et il y a beaucoup d'agitation. Vous aimez Paris ?
Bah, j'ai adoré Paris, mais j'en ai un peu marre, là, maintenant.
C'était comment quand vous êtes arrivé à Paris ? Quelle impression cela vous a-t-il fait ?
Ah ben moi, j'étais bouleversé, parce que je rêvais de ça depuis 18 ans, quoi. Donc, je suis arrivé à 18 ans à Paris, et j'étais dans tous mes états, oui, bien sûr. Mais je me repérais par rapport au théâtre, en fait.
Et pourquoi en avez-vous marre ?
Bah, parce que je vieillis, je pense, et puis Paris n'est plus ce qu'il a été, donc je vieillis, je pense, je sais pas. Mais je vais me retirer un peu, puis je viendrai de temps en temps.
Vous pensez aller où ?
En Normandie.
Ah oui. Vous avez eu au conservatoire comme professeur Michel Bouquet, avec qui vous avez travaillé, je ne sais pas, 25 ans plus tard.
Oui, absolument.
C'était là, il y a 2-3 ans maintenant. Vous avez fait ensemble un Tartuffe de Molière au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous en étiez le metteur en scène, mais aussi vous jouiez également dans la pièce. C'était comment de diriger son ancien professeur, surtout un professeur comme Michel Bouquet, qui a marqué des générations.
C'était un professeur très, très difficile et très dur. Et j'étais très embarrassé, j'étais troublé par son enseignement. Et j'ai un peu loupé sa rencontre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui. Et en fait, c'était un partage, parce qu'on était assez d'accord sur ce qu'on voulait faire. Donc je ne l'ai pas dirigé. On a fait un partage, comme ça, on a partagé notre admiration pour Molière et les Alexandrins.
Les Alexandrins, ça, pour vous, ça fait partie du patrimoine français.
C'est sublime.
Et qu'on avait oublié.
Mais bien sûr. Mais je comprends pas pourquoi, parce que tout le monde chante, avec en vers libre ou en vers rimé. Ça, c'est légitime. Dans la chanson, on a gardé cette idée de la rime, qui est musicale, qui est magnifique. Mais par contre, au théâtre, c'est suspect, je sais pas pourquoi.
Oui, c'est vrai, on se dit on va pas y croire. Notamment s'ils en plus sont des Alexandrins, donc 12 pieds, ça paraît toujours un peu long.
Mais ça chante comme une chanson d'Erita Mitsuko, quoi. Ça chante. L'Alexandrin, ça chante. Mais c'est bien que ça chante, c'est la réalité sublimée.
Vous avez souvent reproché au milieu artistique de cracher sur ce que vous estimez être le patrimoine français, nos chefs-d'œuvre, vous dites absolument. Ça souvent. À qui faites-vous allusion ? À Molière ?
À tout, à Corneille, à Claudel, à Monterland, à Jean Anouilh, à tous les grands auteurs qu'on a, c'est magnifique.
C'est vrai que aussi bien Claudel, Corneille, on les a un peu mis au placard, Monterland aussi, vous l'en avez ressorti d'ailleurs, mais Molière, il a toujours été là,
Molière, oui, on le massacre, mais oui,
bien sûr. On le massacre, vous trouvez ?
Oui, bien sûr. Soit on est sinistre, soit on le joue trop sinistre, soit on essaie de le moderniser comme s'il avait besoin d'être modernisé, alors qu'il est intemporel, c'est un titan.
C'est drôle parce que vous avez eu un tel succès en sortant d'autres chefs-d'œuvre du placard, les pièces de Barillet et Grédy, d'André Roussin, d'Édouard Bourdet, de Jean Poiret même, qu'on ne monte plus tellement aujourd'hui. Vous avez été le premier et vous avez quasiment lancé un mouvement de mode là.
Mais il y a un travail à faire sur des textes oubliés, un travail qui a été fait à l'Opéra où ils ont monté des œuvres oubliées du 17e ou du 19e siècle.
Mais là, vous êtes tellement suivi. J'ai vu récemment à la Comédie Française, je ne sais plus si c'était un Feydeau ou un Courteline, c'était monté à la façon de Michel Faux, c'est-à-dire dans un décor proche du théâtre ce soir, où les gens étaient habillés années 70 et jouaient boulevard de la façon dont il faut jouer le boulevard. Sauf que là, c'était un texte de la fin du 19e, ça paraissait bizarre. C'était aussi une manière de le moderniser, au fond.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de moderniser ces textes, en fait. Et puis les gens sont assez intelligents pour comprendre que les sentiments humains n'ont pas changé, en fait.
On se retrouve juste après une pause devant l'Opéra Comique.
Escalier en marbre, sol en marbre, tout est magnifique.
Ouais, ouais, puis ça n'a pas été abîmé, c'est ça que...
Le slogan, d'ailleurs, je l'ai vu sur une carte postale qui traînait, c'est l'opéra comique, le secret le mieux gardé de Paris.
Oui, parce qu'il est placé dans un endroit protégé, en fait. Ouais. C'est-à-dire, on ne le voit pas sur les grands boulevards, on est obligé d'aller sur la place.
La place Boieldieu.
Voilà, pour le voir.
Donc là, nous sommes au premier étage, les entrées des loges, et maintenant de l'orchestre, et puis la salle mythique.
Cette salle qui est assez... assez humaine en fait, qui n'est pas très grande en fait.
C'est quoi, c'est un théâtre à l'italienne ?
Absolument, oui.
Donc haut de plafond.
Avec un cadre de scène magnifique.
Des sièges rouges, pourquoi toujours rouges ?
Bah à l'époque de la royauté, ils étaient bleus. Et après ils sont devenus rouges.
Et pourtant on n'est pas devenus communistes. Hein ? On n'est pourtant pas devenus communistes.
C'est les rouges et les ors. Et Carmen a été créé là, c'est pour vous dire que c'était un opéra très intimiste en fait.
Carmen, ça a été le plus grand succès, quasiment sorti de l'opéra comique.
Oui, alors que Georges Bizet est mort en pensant que c'était un bide.
Vous avez...
Georges Bizet n'a jamais su que c'était c'est l'opéra le plus joué au monde et Georges Bizet ne l'a pas su.
Il n'a pas su, oui, il a cru qu'il est mort juste après. Et peut-être d'ailleurs en partie à cause de l'échec de Carmen à l'époque à l'opéra comique.
Oui, je ne sais pas, mais en tout cas c'est terrible quand on y pense.
Vous avez essayé de le monter, Carmen ?
Non, j'aimerais bien.
Ah,
oui,
je
non, on avait un projet autour de Carmen, oui, avec Béatrice Uriah-Monzon, qui est une des grandes Carmen de la planète. Et puis, en fait, ça s'est pas fait. C'était un délire autour de Carmen, oui, mais ça s'est pas fait. Mais là, j'ai monté Ciboulette de Réal Dehaene,
de... ouais.
À l'époque de Jérôme Deschamps.
Et puis
on nous avait dit ça marche pas l'opérette en France. Et puis, en fait, on a refusé 100 personnes par jour, donc on l'a repris après. Et après.
Le postillon de Longjumeau.
Après, c'est Olivier Monteil, l'actuel directeur, qui m'a demandé de monter le postillon de Longjumeau, qui est un opéra oublié du 19e siècle.
C'est d'Alfred Adam, celui qui avait
Adolphe
fait.
Adam.
D'Adolphe Adam. D'Adolphe Adam, qui avait fait Gisèle.
Absolument.
Mes amis, écoutez l'histoire d'un jeune égal en postillon. C'est véridique, on peut m'en croire, et connu de tout le canton.
Mais c'est autre énorme succès.
Grande musique, ouais. Et il y avait un ténor magnifique qui chantait. Avec moi, c'était Michael Spyros.
Et des costumes de Christian Lacroix.
Absolument.
Je crois que vous aimez beaucoup Christian Lacroix. Et c'est à la fois ses costumes, ses décors aussi.
Oui, mais c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup la mode à une époque. J'allais beaucoup voir... Les défilés de mode étaient beaucoup plus théâtraux et opératiques que le théâtre, en fait. Ils osaient des choses très, très, très extravagantes et en rendant hommage aussi à l'histoire du costume. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Après, on a fait Tartuffe aussi avec Christian Lacroix. Et puis, en juin, on fera Georges Dandin de Molière avec Christian Lacroix.
Ah oui.
Au Bouffe du Nord.
Georges Dandin, il y avait des parties musicales
Voilà, ça on le fera avec les parties musicales de Lully qui sont sublimes et qui sont jamais données. Des intermèdes qui sont très très beaux.
La technologie a beaucoup envahi le théâtre vivant. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Faux ?
Ben moi j'essaye de... J'aime pas la reconstitution historique, enfin je sais pas faire la reconstitution historique, donc je pense pas que je monte Tartuffe ou un opéra comme ils étaient montés à l'époque. Mais j'aime pas non plus la modernisation à tout prix. Donc j'essaie de réinventer en partant du style de l'œuvre avec les moyens justement technologiques d'aujourd'hui. De réinventer une théâtralité qui est baroque ou qui est romantique ou qui est en fonction de l'œuvre. Mais je pense que la technologie nous aide justement à réinventer le style de l'auteur.
Vous faites partie des acteurs metteurs en scène. Il y en a eu tout au long de l'histoire. Mais ça revient. Vous faites partie de ceux qui ont remis ça au centre du théâtre actuel. C'était pas le cas il y a 20 ans.
Non, non. Mais c'est très récent cette idée, oui, c'est dans les années 80 on a commencé un peu à séparer le metteur en scène et l'acteur. Mais les grands metteurs en scène, évidemment le Cartel, Dulin, Jouvet, etc. Mais même aussi plus proche de nous, Vitesse, Planchon, Jérôme Deschamps, Alfredo Arias, c'était tous des acteurs metteurs en scène. Et c'est important de savoir ce qui... Même, vous savez, j'ai chanté dans la Belle Hélène d'Offenbach à Lausanne, à Noël, et je chantais avec des chanteurs, quoi. Et j'ai vu la difficulté que c'était. Tous les metteurs en scène d'opéra devraient aller essayer de chanter sur scène pour se rendre compte de la difficulté que c'est de chanter et d'incarner. Donc je pense que le metteur en scène, il doit savoir, même si après il veut plus jouer, mais il doit savoir un peu ce que c'est. Autrement, on a affaire à des metteurs en scène souvent qui étaient des universitaires, qui avaient fait des études de lettres, mais qui ne savaient pas ce qu'était un acteur, en fait.
Vous avez souffert ?
Oui, oui, moi j'ai donné pas mal, oui. Mais maintenant, je fais moi-même la mise en scène, comme ça, c'est réglé.
Puis vous touchez deux salaires.
En plus, oui. Bon, ça va, je suis vieux, je peux me permettre.
Eh bien, puisqu'on est à l'Opéra Comique, écoutons Carmen, écoutons L'amour est un oiseau rebelle, chanté par Maria Callas. Voilà, un morceau qui date de 1875. La première fois qu'on l'a entendu, c'était ici. C'était Maria Callas qui interprétait « L'amour est un oiseau rebelle », extrait de « Carmen » de Georges Bizet. On se retrouve dans un instant avec Michel Faux, toujours à l'Opéra Comique. Toujours dans la salle Favart de l'Opéra Comique avec Michel Faux et Olivier Mantei qui est venu nous rejoindre, le nouveau directeur de l'Opéra Comique. Alors, comment vous trouvez-vous dans cette j'allais dire, de cette très ancienne maison. Oui, 300 ans maintenant, plus de 300 ans.
Ah ben on s'y sent bien, n'est-ce pas?
Oui, moi j'adore.
Voilà. Surtout quand il y a Michel Faux qui n'est pas loin. On l'aime bien.
Alors, il faut se souvenir, l'opéra comique, en fait, c'est un mélange de théâtre et d'opéra. C'est-à-dire que l'opéra, on chante tout le temps, et l'opéra comique, on s'arrête de chanter de temps en temps pour parler, comme au théâtre.
C'est ça. Comique ne veut pas forcément dire que c'est drôle. Non. D'ailleurs, toutes les grandes héroïnes qui sont nées sur cette scène n'ont pas eu une fin heureuse.
Non.
Carmen, Manon, ouais. Mélisande, voilà, elles sont toutes nées ici. Et on ne peut pas dire que ça soit...
C'est la différence avec la comédie musicale, qui elle aussi a des parties parlées, intercalant les parties chantées. Mais là, ça se finit toujours bien dans la comédie musicale.
Et c'est pour ça que le théâtre est assez petit. Il y a 1200 places, mais il a l'air petit. Vous voyez, le mur du fond, côté spectateur, est plus proche de la scène que dans des théâtres comme l'Odéon ou la comédie française.
C'est pour l'acoustique ?
Et pour le parler, chanter.
Alors là, on est près de la fosse d'orchestre. On a tendance à l'oublier parce que quand on est au fond de la salle, on ne la voit pas, elle disparaît. On veut pas que les musiciens soient célèbres. Hein.
Non, eux aimeraient bien se faire remarquer parfois un peu plus. Mais alors, il y a des fosses d'orchestre célèbres à Bayreuth où vous ne les voyez pas du tout.
Ouais.
Ils peuvent jouer en short, y compris le chef d'ailleurs. Ça ne se voit qu'au salut quand ils montent sur scène. Là, on les voit quand même. Mais on peut la régler, elle peut être plus ou moins haute. Quand on fait des répertoires baroques sur des instruments d'époque, on a tendance à l'élever. C'est une fosse qui sonne beaucoup, donc les chefs ont un gros challenge ici, c'est de trouver l'équilibre entre les chanteurs et les musiciens sans que l'orchestre sonne trop fort.
Pour vous, Michel Faux, quand vous avez monté aussi bien Ciboulette que le Postillon de Longjumeau, le challenge, c'était de ne pas monter sur scène. Ça devait quand même, vous deviez en avoir une envie terrible, non ?
Je suis monté sur scène, j'apparaissais dans Ciboulette.
Ah oui ?
Oui, dans le rôle de la Castiglione, qui était une des femmes les plus belles de Paris.
C'est vrai que vous aimez vous travestir.
Et puis dans le Postillon, il y avait un rôle de soubrette qui avait quatre phrases parlées. Et je me dis, mais qui je vais oser proposer ce rôle? Et puis du coup, je l'ai fait. Donc je ne peux pas m'empêcher d'être sur le bateau. Et c'est ça qui est formidable et qui est très sain, en fait. Et du coup, mon ego de metteur en scène est tout de suite calmé parce que je dois aller sur le plateau. C'est pour ça que les metteurs en scène, ils sont souvent odieux parce qu'ils sont frustrés. Ils sont dans la salle et ils voient des gens jubiler à leur place. Quoi. Alors que le chef d'orchestre, lui, il est dans la fosse avec les musiciens.
Ouais.
Parce que c'est ça, l'opéra, il y a deux chefs. Il y a le metteur en scène et le chef d'orchestre.
Et de jouer le rôle d'une soubrette avec quatre répliques, c'était comment?
Oh, j'en avais fait une courtisane quand même, parce que j'étais pas assez vulgaire pour faire une soubrette, c'était pas mon emploi, donc je l'avais sublimé. J'en avais fait le double de l'héroïne, la soprano, qui était Florivaliquette. Donc mais j'ai trouvé ça très très bien, j'étais obligé de prendre sur moi, et j'avais les costumes de Christian Lacroix qui étaient très contraignants, sublimes, mais du coup je me rendais compte d'autant plus du courage des chanteurs d'avoir ces costumes très... très présent et de devoir chanter des notes incroyables avec ses costumes qui à la fois aident et à la fois sont une contrainte.
Europe 1, 11h30, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Il est comment dans la journée Michel Faux quand il met en scène un spectacle pareil? Pas trop angoissé, pas trop...
Comme il vient de le dire, ça dépend s'il est sur scène ou dans la salle en train de diriger. C'est deux caractères différents.
C'est Julie Dupardieu qui dit qu'elle vous a surnommé psychorigidité production.
Oui, je suis très maniaque en fait, pour des détails en fait. Je passe des heures à régler des détails en fait. Parce que les grandes lignes, si on suit la partition... Ça, c'est plus facile, les grandes lignes, et puis il y a le chef d'orchestre pour ça. Mais par contre, ces petits détails qui font la différence.
Mais c'est quoi le petit détail? C'est comment on va s'asseoir
Geste, oui, c'est une intonation. Ça peut être un ruban. On a passé des heures avec Christian Lacroix à discuter de rubans. Alors, il était ravi. Parce que souvent, il y a des metteurs en scène qui n'ont rien à faire. Tandis que moi, je suis comme Visconti, je passe des heures à régler un drapé.
Mais Visconti, il paraît qu'il tenait aussi à ce que les détails, même quand le placard était fermé, il voulait que dedans, il y ait la bonne argenterie.
Absolument, oui. Mais c'était, pour moi, c'est un maître, parce qu'en plus, il a excellé au cinéma, au théâtre et à l'opéra. Ah. Et il était aristo-communiste.
Ah oui, pas mal.
Voilà, comme moi.
Et le cinéma, en revanche, en tant que réalisateur, ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup?
On m'a fait des propositions. Je vais peut-être m'y mettre. Ouais.
Ouais.
Bah, il est temps, mais non, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas trop, en fait. Je maîtrisais bien le théâtre, après j'ai maîtrisé l'opéra. Donc.
Vous avez vu, tous les acteurs deviennent réalisateurs de cinéma.
Oui, donc surtout quand on voit certains films, on se dit, bah, pourquoi pas moi?
Je pense que c'est ce qu'ils disent. Ils se disent, non, mon portable, autant supprimer l'intermédiaire, c'est pas la peine.
Non, mais j'aime beaucoup le cinéma, vraiment. J'ai des références beaucoup cinématographiques.
On a un très beau décor sous les yeux. C'est quoi le spectacle en ce moment ?
C'est la Dame Blanche, Boieldieu.
Le décor est un peu sinistre, mais il est
alors, beau. C'est normal, vous l'avez à moitié, puisque toute la seconde partie du décor, c'est une projection.
Ah oui. Ah voilà, alors, l'envahissement par la technologie.
Vous n'avez donc ni les effets spéciaux, ni la lumière, ni la projection.
Là, on voit un mur.
Voilà, mais c'est un décor à demi éco-responsable.
Ouais. Oui.
Mais c'est en fait, la Dame Blanche, c'est un opéra qui fait peur un peu. Ouais. Donc, il y a la mise en scène de Pauline Bureau. Et,
là, c'est un décor à la Frankenstein. Hein,
absolument.
De Frankenstein
absolument.
De la grande époque.
D'ailleurs, il y a un côté, je trouve, Tim Burton, il y a un côté très comme un conte maléfique. Et avec un ténor magnifique qui s'appelle Philippe Talbot. Non, c'est un spectacle vraiment qui peut charmer des publics très, très différents.
Vous voyez, la Dame Blanche, c'est Michel Faux qui en parle le mieux.
Merci Olivier, on va continuer notre
Merci
balade.
À vous. Promenez-vous bien.
On va vers les bouffes parisiens.
Frédéric Taddeï, en balade avec Michel Faux sur Europe 1.
Michel Faux, on arrive au boulevard des Italiens, boulevard du crime en fait, hein, puisque c'était là qu'étaient tous les théâtres de fortune au 19e siècle.
D'où le nom, théâtre de boulevard.
Ouais. Je sais que vous êtes assez fasciné par les clowns, mais l'êtes-vous par les mimes ?
Aussi, oui, bien sûr, mais je connais moins bien.
C'est un art qui s'est perdu un peu.
Oui, absolument.
Non, je pense aux clowns parce que vous avez toujours fait l'éloge des clowns. J'ai l'impression qu'on est la dernière génération, vous et moi, à avoir connu les grands clowns, des clowns qui étaient célèbres.
Oui.
Aujourd'hui, il y a encore des clowns, mais on les connaît moins. C'est un art qui se perd.
C'est un art très difficile, en fait. Souvent, moi, j'aime beaucoup aller au cirque, et souvent, ce qui pêche, c'est le clown. Les magiciens sont incroyables, mais les clowns, c'est un art qui, en effet, qui est difficile.
Vous avez fait le clown, vous, à de nombreuses reprises, notamment quand vous jouiez, pendant plusieurs années, le récital en fatigue, oui. Où vous travestissiez en diva d'opéra un peu cintré. C'est un peu comme ça que le grand public vous a découvert, d'ailleurs, le jour où vous avez chanté, je crois que c'était la cérémonie des Molières,
une
chanson de Carla Bruni.
Même les critiques me reprochent de plus faire ça maintenant. Là, je joue une pièce de Harold Pinter, donc ça n'a rien à voir. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de passer justement d'un registre à l'autre, même si j'aime beaucoup le travestissement, et je le referai, mais sous des formes différentes. Le problème, c'est quand vous faites quelque chose qui marche, on vous demande éternellement de le refaire.
Mais dans ce personnage de cantatrice, vous jouiez une créature comme on n'en fait plus. C'était un peu un clin d'œil, je trouvais, à une époque où les artistes se voulaient artistes jusqu'au bout des ongles, et 24 heures sur 24.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, oui, bien sûr. Je pense que l'artiste doit être marginal. Et en effet, à l'époque, les comédiennes étaient, on appelait ça des cocottes, ou on appelait ça. C'était Léon Blois qui disait j'ai plus d'estime pour les prostituées que pour les acteurs, mais c'était ça, c'était même pire qu'une prostituée. Et les acteurs pouvaient être des voyous, même. Maintenant, évidemment, si on demande aux acteurs ou aux artistes d'être des petits bourgeois bien pensants, on va souffrir parce qu'on n'aura plus, Richard Wagner, on n'aura plus Picasso, on n'aura plus Claudel et on n'aura plus Roman Polanski, ça c'est sûr.
Vous pensez que c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui, d'être des petits bourgeois ?
D'être raisonnable.
Oui.
Voilà. D'avoir.
D'être moraux.
D'être puritain, même. D'être moraux, absolument.
Et ça vous embête, ça ? Ça vous choque ?
Qu'on leur demande, oui, parce qu'autrement, c'est pas la peine qu'il y ait des artistes s'ils doivent ressembler à tout le monde. Justement, pour parler de la diva ou de la tragédienne, en effet, à l'époque, ces acteurs ou ces chanteurs étaient des gens, étaient des demi-dieux, étaient des gens extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout normaux.
C'était pour eux, c'était un métier qui n'était pas un métier comme les autres.
Bien sûr, c'est pour ça qu'ils étaient excommuniés.
Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On voudrait
bien sûr
constamment dire que c'est un métier comme un autre.
Absolument,
des
c'est
gens
pour ça
normaux.
Qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Parce que c'est devenu un métier assez de bourgeois, ouais. De notable, on va dire.
Ça a changé la manière de jouer aussi.
Bah évidemment, parce que pareil, on nous demande d'être raisonnable, de ne pas en faire trop. Mais ça, c'est très français, encore une fois, parce que les acteurs anglo-saxons ou les acteurs coréens ou les acteurs italiens sont toujours extravagants. Mais en France, on avait une extravagance qu'on a perdue. Oui.
Est-ce que ça n'est pas lié à la télévision aussi, autrefois les stars de cinéma étaient imitaient les surhommes. En tout cas, on aurait pu croire que c'était des surhommes. Ils imitaient les héros qui, autrefois, réalisaient véritablement des exploits. Mmh. Avec la télévision, tout à coup, on a aimé l'homme de tous les jours. L'homme et la femme de tous les jours, d'ailleurs. Gens plus dans la moyenne, au fond.
Mais d'abord, je pense que l'homme de tous les jours est fou et dangereux. Donc, c'est ce que nous a raconté... Michel Serrault, ou qui jouait des gens de tous les jours, mais avec... ou Chabrol, par exemple. Chabrol nous racontait que la petite bourgeoisie française était perverse. Donc, il y a ça. Et puis, je pense qu'à une époque, on a eu une télé formidable en France. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, je me souviens, il y avait des téléfilms formidables et des grands acteurs de théâtre. Donc, je pense pas que ce soit la télé qui fait ça.
Alors, on a sacralisé le naturalisme. Ce serait ça, aujourd'hui. Il faut être naturel.
Mais c'est même pas du naturalisme, parce que je pense que le naturalisme, c'est plus intéressant. Je sais pas, c'est un jeu sentimentalo-raisonnable. Voilà, mais c'est même pas un jeu réaliste, parce que là, le cinéma réaliste, c'est Piala. Et Piala, c'est formidable. Mais Piala, c'est violent, c'est tourmenté, c'est
noir, au fond. C'est noir.
Ça, c'est du cinéma réaliste. Ça, c'est intéressant. Mais c'est même pas ça, non. C'est quelque chose de chic et de raisonnable.
Et alors, comment remettre de la noirceur là-dedans? Parce que c'est ça qui vous manque, la noirceur.
Ben là, on est mal barré en ce moment. J'essaie, je me bats pour ça, mais c'est compliqué. Même au niveau de... Quand j'essaie de monter des auteurs particuliers, étranges. Et ça, c'est compliqué, mais j'y arrive. Malgré tout, j'arrive à trouver des directeurs de théâtre audacieux et des comédiens, surtout, qui me font confiance. Mais c'est un peu un combat, oui. Ouais,
on dirait que pour vous, la comédie et le drame, c'est la même chose. Au fond, Trahison de Pinter, ça n'est pas sur le même registre que Barry et Grady, mais je suis sûr que ça vous procure les mêmes sensations.
Vous avez tout compris. Après, il y a le style qui est différent, mais en effet, Barry et Grady comme Pinter racontent que l'être humain est fou, est imprévisible, est égaré, peut faire des choses... magnifique et des choses terrifiantes. Donc en fait, ça se rejoint, en effet. Je pense qu'il faut être honnête avec sa folie pour jouer ces auteurs-là, oui. Ce ne sont pas des auteurs didactiques ou manichéens, quoi.
Vous n'êtes jamais cool sur scène. Est-ce que vous l'êtes dans la vie?
Non plus.
Non plus? Jamais?
Peut-être quand je dors, quand je rêve. Et encore, rêver, je trouve ça terrible. Je me réveille toujours dans des états pas possibles parce que les rêves ou les cauchemars... Me bouleverse. Je trouve que c'est une invention terrible, le rêve et le cauchemar. C'est formidable, mais en même temps, c'est terrible, je trouve.
Je viens de réaliser que vous aviez un parapluie à la main.
Parce que j'avais peur qu'il pleuve.
Oui, je trouve qu'il fait assez beau. Mais déjà, d'avoir un parapluie, c'est bizarre.
C'est mon côté Mary Poppins.
C'est ça. Vous avez remarqué comme...
Ou John Steed.
John Steed, c'était le héros de Chapeau melon et Bottes de cuir.
Formidable. Qui est habillé par Pierre Cardin. L'acteur est habillé par Pierre Cardin. Ouais.
Alors, votre récital emphatique n'existe qu'en DVD. Donc, il y a peu de traces de vos chansons, ni de vos chansons réalistes, de Névrotique Hôtel. En revanche, on peut vous entendre dans Le Pornographe, une chanson de Georges Brassens. On va l'écouter, Michel Faux, et vous nous direz pourquoi celle-ci.
Europe 1, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Autrefois, quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. En me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt, et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est soit dit en passant d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais dit permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle a suraigu le le feu au cul. J'ai le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurai sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon nom je m'a dit turlu tutu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. J'suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondel, dans un bordel. J'suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais ne tendez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici-bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir en projet, se mord mal en bouchée. Même éveille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem, à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
C'était Le Pornographe, chanté par Michel Faux. Pourquoi cette chanson, Michel Faux ?
On m'a demandé de chanter du Brassens, et donc j'aime beaucoup Brassens, mais c'est très difficile à chanter, en fait, je me suis rendu compte. Il avait un chanté-parlé proche de Kurt Weill, je dirais, et c'est très 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 difficile. Et puis Brassens, c'est subversif, quoi.
Et Le Pornographe ?
Le Pornographe aussi, parce que c'est à double sens. Mais la pornographie peut être... est une forme d'art. Moi, je trouve, j'ai tourné dans un film très beau de Cédric Angers qui s'appelle L'amour est une fête, où il parle du déclin du cinéma pornographique en France dans les années 80. Et c'est un film très beau parce que c'est un film très, très gracieux et pas du tout sordide.
Avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch, vous jouiez un gangster, un caïd.
Un producteur de cinéma.
Reconverti dans le producteur de cinéma.
Ça arrive. Si on sait que c'est de la pornographie, moi j'ai rien contre, hein, vraiment. Ce qui est embêtant, c'est quand on nous fait croire que c'est du cinéma d'art et d'essai, qu'en fait c'est de la pornographie. Alors là, c'est un peu embêtant. On arrive au Bouffe Parisien.
Ah bah oui.
Et une photo de la magnifique Monica Bellucci.
Oui, qui va jouer...
Maria Callas.
Maria Callas. Et puis il y a le système Ribadier avec Patrick Chenet. Absolument. Qui nous a emmenés en balade il y a peu de temps. Bah, on va rentrer. Michel Faux, vous allez nous faire visiter le théâtre des Bouffes Parisiens. Nous sommes avec Michel Faux, théâtre des Bouffes Parisiens, 4 rue Monsigny. On est chez vous ici, hein. C'est ici qu'ont été montées les pièces de boulevard de Barry et Grédy, comme Fleur de Cactus avec Jean Poiré et Sophie Domaret, que vous avez reprises, ou Folamanda avec Jacqueline Maillan, ici que jouaient Maria Pacôme, Jean Le Poulain, Robert Hirsch.
Et c'est ici aussi que pendant la guerre, Pierre Brasseur et Arletty ont joué. Voulez-vous jouer avec moi de Marcel Achard ? Pas mal.
Donc toujours un décor rouge. Au fond, vous avez passé votre vie dans des décors rouges.
Bah oui, c'était un fantasme, oui. Et là, dans la vitrine, on voit des costumes qui ont appartenu à Sacha Guitry.
Oui, parce que je crois qu'il a monté beaucoup de pièces ici.
Oui, absolument. Et il a une grande période au Bouffe Parisien. Et c'est surtout Jean-Claude Brialy qui avait dirigé ce théâtre très longtemps et qui l'a laissé dans cet état formidable. Avec tous ses trésors, ses affiches, ses costumes.
Je me demande comment c'est chez vous. Ça ressemble à une loge de théâtre.
Oh, il y a un mélange. Ça ressemble un peu à la loge de Sarah Bernard. Oui, c'est un peu Napoléon III, on va dire.
Oui, carrément. Vous devez être le dernier qui se meuble en Napoléon III.
Ah oui, c'est pas tellement design.
Alors ici, vous avez monté Douce Amère de Jean Poiré avec Mélanie Doutet.
Et c'est un très bon souvenir. Alors que c'est un spectacle qui a un peu dérouté le public parce que c'était la première pièce de Jean Poiré qui était assez mélancolique et acide. Mais j'ai un souvenir formidable d'avoir jouer dans ce théâtre, qui est un théâtre à l'italienne, de 600 places, où le public est très près. Et c'est l'accueil de la direction, Richard Caillat et Stéphanie Lel, ils ont été exemplaires. Très...
Moi, j'ai un souvenir du décor magnifique. C'était votre frère, Bernard Faux.
Absolument. C'était un décor qui était entre Stanley Kubrick et Georges Lautner, on va dire.
Bah oui, pour revenir à notre conversation de tout à l'heure. Quand on joue une pièce de boulevard, est-ce qu'il faut la jouer boulevard ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, jouer boulevard, il faut jouer le... Oui, il y a une histoire de style, toujours pareil. Mais ce qui était beau avec les acteurs que j'allais voir, moi, quand j'étais ado, c'est-à-dire Jean Poiret, Sophie Desmarais, Darry Cole, Maria Pacôme, Jacqueline Maillan, c'est qu'ils ils étaient fous, en fait. Ils étaient possédés. Comme les acteurs tragiques, d'ailleurs. Ils avaient une folie surréaliste, comme ça. On était ivres de rire. Et Darry Cole, sur scène, c'est quelque chose d'incroyable, de surréaliste, de dadaïste, même, je dirais. Et ça, on l'a un peu perdu, pareil. Le boulevard est devenu un peu plus réaliste, un peu plus raisonnable, en effet.
Jouer boulevard, c'était en faire un peu plus.
Absolument.
Être toujours, un peu comme autrefois, le cinéma sublimait la réalité.
Absolument. Comme la
les acteurs étaient bigger than life.
Et comme quand on jouait la tragédie, ou de Racine, ou de Corneille, on était baroque, donc on était un peu au-dessus de la réalité. On était surréaliste, oui. En effet, c'est ça qui me plaisait, je pense. C'est que ça ne ressemblait pas à la réalité. Mais maintenant, même quand on monte une tragédie ou un opéra, on essaie de ressembler aux actualités. Alors c'est... Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, en tout cas.
Mais dans le boulevard, il y a un côté théâtre de marionnettes pour adultes. C'est-à-dire qu'on prend le public à partie. On s'adresse à lui, parfois.
C'est formidable. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu Jacqueline Maillan jouer, c'était dans Folamanda, en tournée Carcinti, en province. Et j'avais été très, très troublé parce qu'elle parlait face publique. En fait, elle avait un jeu brechtien, où elle avait un jeu comme la...
C'est vrai que dans Brecht, on s'adresse au public aussi. Hein.
On casse le quatrième mur, ouais. Et il y avait ça aussi dans la tragédie baroque, les gens jouaient très très frontal. Et j'aime beaucoup le jeu frontal, moi. On me l'a encore reproché là, sur le Pinter, mais, mais je trouve que c'est comme un gros plan de cinéma, le jeu frontal. C'est très beau.
Frédéric Taddeï se balade avec Michel Faux sur Europe 1.
Mais ce qu'on a pu reprocher au théâtre de boulevard, c'est qu'on l'a trouvé pas assez métaphysique, au fond. Hein, c'est comme s'il ne nous disait rien de la condition humaine, s'il ne nous disait rien de Dieu.
Oui, mais ça, on en est revenu, puisque maintenant, on monte Feydeau partout, alors qu'à une époque, Feydeau, c'était vraiment méprisé. Et même Sacha Guitry est monté dans le théâtre public, donc c'est pour vous dire qu'on a fait quand même des progrès. Parce que je trouve que, justement, il y a quelque chose de métaphysique dans ce théâtre-là.
De quel ordre ?
Il y a quelque chose de poétique... Et il y a quelque chose d'absurde et d'inexplicable. C'est là où c'est métaphysique. Mais même là, je relisais des pièces de Françoise Sagan. C'est un théâtre à redécouvrir. Les pièces de Françoise Sagan, c'est passionnant. Il y a tout un univers très, pas du tout moral, avec un humour comme ça très, très caustique.
C'est vrai que le théâtre de boulevard nous en dit beaucoup sur les conventions, sur l'ordre social, sur le conformisme, sur l'hypocrisie. On pourrait presque dire que la vie politique, au fond, est plus proche du théâtre de boulevard que de la tragédie, dans un pays démocratique.
En tout cas, il est plus proche du boulevard que du drame sentimental qu'on voit partout. En effet, les gens dans la vie ne sont pas du tout raisonnables. Ils sont égarés ou ils sont furieux, mais ils ne sont pas du tout raisonnables. Donc je ne sais pas pourquoi on veut nous faire croire que l'être humain est raisonnable et chuchote, alors qu'en fait les gens parlent très très fort dans la vie. Je ne sais pas pourquoi on nous demande de ne pas parler fort au théâtre, parce que les gens parlent très fort dans la vie. Vous savez, dans les restaurants, dans le métro, les gens parlent très fort. Donc en effet, je pense que la vie ressemble plus à une tragédie de Sénèque ou un boulevard de Feydeau. Qu'à un film vaguement psychologique, je dirais, comme on voit en ce moment.
On se retrouve juste après les infos avec Michel Faux.
Europe 1, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec le comédien Michel Faux, qui est à l'affiche de Trahison d'Harold Pinter au Théâtre de la Madeleine. On va se rendre au Théâtre de la Madeleine, mais pour l'instant on est au Théâtre des Bouffes Parisiens, en extase devant des costumes de scène de Sacha Guitry, qui sont dans des vitrines. Juste derrière nous, il y a le passage Choiseul, où, me rappeliez-vous, Louis-Ferdinand Céline a passé son enfance.
Moi, il en parle, oui.
Dans Mort à Crédit, hein. Et ces costumes de scène de
de Guitry, on n'en fait plus des comme ça. Hein. Je sais que le nostalgique, si. Le nostalgique Michel.
Si, on dirait du Christian Lacroix, là, cette robe de chambre mauve en velours avec ses broderies dorées, on dirait du Lacroix.
Le costume qu'il portait dans Palson Bleu en 1953, c'est ce que nous dit le petit carton. Et puis là, il y a quoi ? C'est une robe de chambre en velours très épaisse.
Avec des fleurs brodées, oui.
Et des broches. Il y a un mystère du théâtre qu'on a toujours du mal à éclaircir quand on n'est que spectateur. Il y a quelque chose qui se passe entre le public et les acteurs. Comment l'analysez-vous, vous ?
Bon, moi, je pense que c'est le côté live, c'est-à-dire c'est de la chair et de l'esprit qui regarde, de la chair et de l'esprit. Donc, il y a quelque chose d'organique, il y a quelque chose de physique, en fait, dans cette relation. Mais c'est formidable, c'est magique. C'est incroyable.
Mais cette magie ne tient à rien. C'est-à-dire que je me dis toujours, quand je suis dans une salle de théâtre, je me suis dit, mais il suffirait que quelqu'un se lève et dise, ça suffit, on se fout de nous, pour que tout à coup, la magie s'arrête. Vous êtes à la merci de le premier qui élève la voix ou qui tousse un peu trop longuement.
Mais pareil, le public est devenu très sage et assez passif. En fait, avant, le public était beaucoup plus exigeant et intervenait davantage. Moi, je trouvais ça...
Il le fait encore à l'opéra. C'est pour ça que vous faites des mises en scène d'opéra.
Parce qu'à l'opéra,
pour vous faire siffler.
Le public est plus exigeant, oui. Le public est plus connaisseur, en fait. Mais il y avait ça avant au théâtre. Mais moi, je trouve ça beau, parce que le théâtre, c'est pas la messe, ça. C'est pour ça, moi, ça me gêne pas quand les gens rentrent, sortent, tous. Alors, le téléphone, c'est un peu plus gênant, mais maintenant, parce que ça n'existait pas avant. Jusqu'au début du XXe siècle, le théâtre, il fallait... Justement, c'est pour ça que les acteurs étaient survoltés, étaient obligés de se dépasser, parce que la foule n'était pas du tout attentive. Elle était un peu comme les gens devant la télé, quoi. C'est-à-dire qu'ils rentraient, ils sortaient, ils buvaient, même ils faisaient des cochonneries, etc. Il y avait quelque chose de moins solennel, en fait, peut-être.
Il vous est arrivé comme ça que tout à coup, quelqu'un rompe le charme, s'indigne Patrick Chesnais.
Ça m'est arrivé il y a longtemps. Patrick Chesnais, oui.
Oui, Patrick Chesnais était allé boxer un spectateur. il l'a raconté dans son dernier livre, qui faisait exprès de rompre la magie comme ça.
Moi, j'avais joué, mais c'était il y a longtemps, c'était en 91. J'avais joué dans Phèdre de Racine, mis en scène par Stéphane Auvray-Norrois, avec Armand Daltaï qui faisait Phèdre. C'était rock and roll. Et moi, je faisais Théramène, et je commence le récit de Théramène, qui dure quand même presque 8 minutes, je dirais. Et je commence le récit, il y a un spectateur qui a dit « Ça, ce n'est pas possible !» Donc ça porte pas vraiment, quoi. Mais c'est la seule fois où vraiment je me suis fait...
Mais ça vous a pas désarçonné ?
Ah bah si, totalement. Mais j'ai continué. J'étais dans un état second, évidemment.
Oui, c'est ça, c'est la magie dont on parlait, justement.
Mais c'est le risque, on s'expose quand même. C'est quand même un truc de fou, cette histoire. Et ça, j'ai jamais perdu. Tous les soirs, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je m'expose comme ça ?
Il y a tant d'acteurs de cinéma, y compris de très bons acteurs, qui n'osent pas mettre les pieds sur une scène de théâtre.
Oui, bien sûr, c'est un risque. D'ailleurs, en ce moment, je joue avec Roche Dizem, qui a fait du théâtre, mais qui a surtout fait du cinéma. Et il me dit, c'est une expérience formidable, en fait, qui le remet en question, en fait. En effet, c'est tout à son honneur, d'ailleurs, parce qu'il pourrait rester confortablement un acteur de cinéma. Le risque est ailleurs, au cinéma.
Il est où ?
Il est que la caméra vous viole, mais la caméra saisit des choses qu'on ne maîtrise pas tout, quoi. Et elle saisit des choses comme elle est très, très proche de vous. C'est pour ça que les acteurs n'aiment pas regarder leurs films, souvent. Il y a quelque chose d'un peu obscène, un peu gênant.
À la télévision, c'est encore pire, parce qu'en plus, on ne joue pas de rôle. Je parle là des animateurs, des présentateurs, des journalistes.
Ah bah oui, là, c'est du voyeurisme pur. Et il y a un public pour ça, les gens regardent ça.
Vous avez commencé à enseigner au conservatoire, vous êtes arrêté très vite, pourquoi ?
Parce que la direction a changé, c'était Daniel Mesguich qui m'avait demandé de venir. Et ce qui était bien avec Daniel Mesguich, c'est qu'il voulait que tous les styles de théâtre soient représentés. Donc il y avait des gens très différents qui enseignaient. Et puis après, il y a une nouvelle directrice qui est arrivée et qui, elle, a vraiment voulu déposer une marque de fabrique très, très précise sur un théâtre très précis. Et ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis retiré, mais je pense qu'elle était contente que je m'en aille. Mais là, ils font du théâtre social, avec de l'écriture de plateau, avec des micros à chef, avec de la vidéo, etc. Mais il n'y a plus aucun travail sur le répertoire, il n'y a plus aucun travail sur la technique, pas du tout. Donc en fait, elle forme plus des intermittents du spectacle que des artistes.
Et la Comédie Française, dans quelques années, alors ce sera comment ?
Bah, c'est un peu pareil, puisque maintenant ils ont des micros à la Comédie Française, c'est quand même le comble. C'est pas l'histoire d'entendre ou de pas entendre, c'est que le fait de ne pas avoir de micro dans une grande salle comme la Comédie Française, ça vous oblige à vous surpasser. C'est comme quand vous jouiez à la Cour d'honneur du Palais des Papes sans micro, avec une acoustique.
À Avignon, donc.
Voilà, dégueulasse. Les acteurs étaient obligés d'être dans des états comme ça, extrêmes. Maintenant, si on peut chuchoter, ça devient en effet très confortable, quoi. C'est ça que je regrette, c'est pas tellement là de mieux entendre ou de moins bien entendre.
Eh bien, on va continuer notre balade en direction, cette fois, du Théâtre de la Madeleine. Vous jouez Trahison de Pinta.
Frédéric Taddeï, en balade avec Michel Faux sur Europe 1.
Nous voilà à rue de Suresnes, où se trouve le Théâtre de la Madeleine. Michel Faux, qu'est-ce que vous faites les dimanches, quand vous ne jouez pas ?
Je m'étiole. Sur mon divan. Ah oui, je suis vraiment échoué.
Quand vous ne jouez pas, vous êtes une loque.
Je suis vraiment échoué sur la plage, ouais, complètement.
Ah oui, c'est vrai.
Mais là, on va rajouter les dimanches en mars, donc je ne pourrai plus. Bah, il n'y a rien de plus triste que les dimanches. Hein. Comme disait Juliette Gréco. Ouais.
Et même Léo Ferré, je crois que c'est lui qui a écrit Jouer les dimanches, me semble-t-il. Léo Ferré qui a d'ailleurs écrit une très belle chanson sur la scène. Je me suis dit que... Elle devrait vous plaire, on va l'écouter.
Europe 1, 11h30, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Sur la scène, il y a le silence, tout habillé de noir. Sur la scène, il y a une pute avec des yeux abstraits. Sur la scène, il y a le vent qui me raconte des histoires. Sur la scène, il y a mon cœur qui est prêt à chavirer. Sur la scène, il y a ta voix qui me revient d'outre-mer. Sur la scène, il y a ton ventre et j'y meurs chaque soir. Sur la scène, il y a ton style et tes façons de le faire. Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire. Sur la scène, il y a mes clopes que t'allumes à ton slip. Sur la scène, il y a mes sous qu'on balance comme des cons. Sur la scène, il y a des voiles qu'on prendrait pour tes nippes. Sur la scène, il y a que dalle avec quelques chansons. Sur la scène, il y a la mer qu'on prendrait pour la grève. Sur la scène, il y a du faux qu'on prendrait pour de vrai. Sur la scène, il y a le soleil qui a le droit de grève. Sur la scène, il y a un mec qui sait pas maquiller. Sur la scène, il y a l'automne et du lin qu'on emporte. Sur la scène, il y a l'hiver et Molière qui fout le con. Sur la scène, il y a le mois de mai qu'attend derrière la porte. Sur la scène, il y a l'été qui est mort, voilà 2 ans. Sur la scène, il y a l'Espagne qu'attend depuis 40 et qui se fabrique des mômes pour se sentir moins seul. Sur la scène, il y a Danton, le cœur sur la détente. Tout prêt à refoutre la merde avant qu'on ferme sa gueule. Sur la scène, il y a Karl Marx et Wall Street dans sa traîne. Sur la scène, il y a la bourse et l'âme des pauvres gens. Sur la scène, il y a la vie et l'espoir qui se traîne. Et la mélancolie qui a pas fait toutes ses dents. Sur la scène, il y a mon cœur qui bat ses camarades. Et ma môme en coulisses pour mieux se rappeler. Sur la scène, il y a le diable encore en hit parade. Et qui bat les Beatles de quelques variétés. Sur la scène, il y a des mots qui ne demandent qu'à se placer. Sur la scène, il y a des airs qu'on l'air de n'en pas avoir. Sur la scène, il y a la guerre et des fois, il y a la paix. Sur la scène, il y a tout ça et il y a même un nanar. Sur la scène, il y a des gosses qui font le moine Marie et qui foutent des pavés dans le tronc des connards. Sur la scène, il y a Jésus qui fume des marronniers. Qui se prend pour un beatnik avant de finir au quart. Sur la scène, y a ma joie maquillée en musique. Sur la scène, y a mon job qui a tout juste 20 ans. Sur la scène, y a Paname et sa claque et sa clique. Sur la scène, y a Popol qui me traîne depuis 12 ans. Sur la scène, y a une ombre qui m'a fait des souvenirs. Sur la scène, y a Pépé qui m'attend dans son trou. Sur la scène, y a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, y a le public, c'est notre théâtre à nous.
C'était Sur la scène, chanté par Léo Ferré en 1970 sur son album Amour Anarchie. Ça vous parle, non ?
Ah bah, totalement, oui. Et puis j'aime son interprétation, j'aime sa diction, son rapport carnassier avec les mots. Et puis il chante, la voix est voluptueuse, quoi. C'est pas du tout sinistre, c'est très très vivant, très incarné, ouais. Très beau.
Mais vous-même, dès que vous descendez de scène, vous n'êtes plus tout à fait vous-même, ou c'est sur scène que vous vous dépassez ?
Je pense que c'est sur scène que je me dépasse. Je pense que c'est sur scène que je me montre le plus, oui. Dans la vie, je suis assez mélancolique et timide, même. Donc, mais on se cache beaucoup dans la vie, bien sûr. On met des costumes, on triche, on fait attention à ce qu'on dit, etc.
Oui, mais sur scène aussi, on met des masques, on se travestit.
Absolument, mais c'est des masques qui révèlent des choses, en fait. C'est très étrange. Pour ça qu'on ne maîtrise pas tout. Hein. Pour ça que les acteurs n'aiment pas se regarder.
Alors, le théâtre de la Madeleine nous tend les bras. Nous sommes juste devant... C'est là où vous jouez Trahison de Pinter. Pourquoi est-ce qu'on joue une pièce dans tel théâtre et pas dans tel autre ? C'est une part de hasard, de rencontre ? Comment ça se passe ?
Moi, j'aime beaucoup ce théâtre parce qu'il y a 10 ans, j'avais monté Maison de Poupée d'Ibsen avec Audrey Tautou et puis Nono de Sacha Guitry avec Julie Depardieu. C'est des très beaux spectacles, c'est des souvenirs formidables. J'aime beaucoup ce théâtre. Et puis, c'est parce que la direction est assez audacieuse pour produire ce spectacle. Une pièce de Pinter qui est totalement abstraite. Avec Roche Dizem, Claude Perron et Fabrice Kals.
Eh bien, rentrons.
Europe 1, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
Alors, un théâtre qui date de 1924, hein, qui a été le théâtre attitré de Sacha Guitry. Hein.
Pendant la guerre, oui, bien sûr.
Il a monté 24 pièces,
ouais,
ici.
Ouais, notamment. Et à la Libération, il était... traité comme un malpropre, alors qu'il avait fait les beaux jours de ce théâtre. Il a été chassé de ce théâtre, après avoir rempli les salles.
Alors qu'il n'y avait rien à lui reprocher, d'ailleurs.
Absolument.
Il a été ensuite blanchi de toutes les accusations. Nous voilà dans la salle.
Ouais, c'est un théâtre totalement différent des bouffes parisiens, parce qu'il est plus récent. Et il y a très peu de mauvaises places dans ce théâtre. Il y a un grand parterre, un grand balcon.
Oui, nous sommes au balcon, là, et il y a beaucoup, beaucoup de place. Hein. On se croirait presque dans un cinéma.
Oui, à part que le cadre de scène est quand même magnifique. Mais j'aime beaucoup ce théâtre, vraiment. Le rapport, hein. Scène-salle est formidable. Il est grand, mais il est quand même humain. C'est vraiment... Et puis, dans ce théâtre, moi, j'ai vu Sophie Desmarais dans Peau de vache de Barillet Grédy. J'ai vu...
Peau de vache que vous avez remonté avec Chantal Latsou.
Et ça m'avait aussi marqué, parce que j'avais vu Sophie Desmarais, elle chantait quand elle parlait, ça m'avait troublé. Puis j'avais vu aussi une autre pièce de Barillet Grédy, Le Préféré, avec Jean Pia et Judith Magre. Et Judith Magre était dans le boulevard, elle était formidable, elle était démente. Et puis après j'ai vu Jean Marais dans une pièce d'Obaldia. Donc j'ai des souvenirs.
Trahison, c'est le triangle amoureux éternel, hein, le mari, la femme et l'amant qui est le meilleur ami du mari. Mais là, j'ai l'impression que vous, ce qui vous intéresse, ce sont les liens entre le mari et l'amant.
C'est-à-dire que c'est le cocu de l'affaire, c'est l'amant, parce qu'en fait, il apprend que depuis des années, le mari était tout à fait au courant qu'il était trahi par son meilleur ami. Donc c'est lui qui se fait berner, en fait. C'est l'amant qui se fait berner, que joue Roche Dizem. Et en effet, il y a une relation perverse et en même temps très belle. C'est comme si le mari avait besoin de sa femme et de son meilleur ami. Il ne pouvait pas. Donc il accepte d'être trompé parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour vivre à trois, en fait, je dirais.
Oui, vous croyez au transfert ? On parle souvent de transfert dans les triangles amoureux.
Oui, bien sûr. Moi, je crois au transfert. Et puis je trouve qu'on n'a pas tellement évolué là-dessus. Je parlais d'une pièce de Claudel qui s'appelle Partage du Midi, qui date de 1900, où c'est l'histoire d'une femme qui est sur un bateau avec son mari, l'amant platonique et l'amant charnel. Elle a trois hommes à sa disposition. En 1900, écrit par Claudel, qui était quand même un bigot. Et je trouve qu'on n'a pas tellement évolué là-dessus. Oui. Je trouve qu'il y a des formes d'amour différentes. Alors parfois, ça peut être la même personne qui joue les trois rôles, mais parfois, on a besoin de plusieurs personnes. En effet, cette histoire d'amitié est très ambiguë et très très belle en même temps. Mais ça, c'est Pinter, c'est ça qui est beau chez Pinter, c'est que... Il ne pose que des questions, il n'est pas du tout donneur de leçons. Quoi, ça.
Mais alors Pinter, en revanche, ce n'est pas de la comédie. On voit bien que j'imagine que vous avez sauté sur cette pièce en disant « je ne veux pas qu'on m'enferme dans un registre, ça fait un peu trop longtemps qu'on parle de moi ».
Non, parce que à chaque fois que je fais un spectacle, il y a une partie de la presse ou du métier qui ne comprend pas, mais dont j'ai l'habitude. Mais non, c'est parce que c'est un grand auteur. C'est un auteur qui c'est une étape dans l'histoire du théâtre, comme il y a eu Beckett.
Oui,
comme
mais
eu...
très reconnu et pas du tout mis au placard, comme l'était Barillet Grédy ou Édouard Bondet.
Et en même temps...
Ou André Roussin, qui a été le directeur de ce théâtre.
Absolument.
Aussi, d'ailleurs. Hein.
Mais Pinter, c'est un auteur qui a même été très, très critiqué très longtemps, au début. Quand même. C'était pas gagné du tout. Maintenant, c'est devenu un classique. Mais non, c'est plutôt le style, encore une fois, de l'auteur qui me plaît. Donc, en effet, c'est un jeu beaucoup plus secret, c'est un jeu beaucoup plus glacé, je veux dire, mais c'est ça qui est bien. Et puis, avant, j'ai fait La Belle Hélène d'Offenbach, et puis après, je vais faire Georges Dandin de Molière, qui est une pièce baroque. Donc, c'est ça qui me plaît, c'est de travailler sur des...
Est-ce qu'un jour, vous pourriez faire En attendant Godot ?
Pas cette pièce-là, mais Michel Bouquet voulait qu'on fasse fin de partie de Beckett, et puis j'avais du mal parce que je trouve que Beckett est très difficile à monter. C'est un peu un mur dans le théâtre, c'est un mur de béton, quoi. Donc il n'y a pas 36 façons de monter Beckett. Et maintenant, je regrette de ne pas l'avoir fait parce qu'il m'a appris des choses sur Beckett, Bouquet. Mais,
moi, je l'avais vu jouant En attendant Godot au Palais des Papes.
Avec Jean Jouisson, Fabrice Luchini et Rufus. Ouais. Mais. Il y avait des beaux spectacles à l'époque au Palais des Papes, mais il y avait surtout des très grands acteurs qui jouaient. Mais oui, j'aurais à la rigueur, j'aurais fait fin de partie. Mais j'avais fait un récital de poèmes de Beckett, parce que Beckett a écrit beaucoup de poèmes qu'on oublie, qui sont très très lyriques en fait, très musicaux. Et alors là, ça avait été un fiasco total. Ouais. Les gens n'avaient rien compris.
Et bien, si vous nous emmeniez dans les coulisses maintenant, vers votre loge, donc on est là.
Oui, elle est pas grande, ma loge. C'est une loge sublime qui est la loge de Sacha Guitry, qui est restée avec des peintures chinoises, mais je l'ai laissée à Roche Dizem, parce que c'est lui la star.
Faites gaffe, il y a plein de pièges. Hein.
Ouais.
Nous sommes donc dans les loges du Théâtre de la Madeleine. Là, c'est la plus belle loge.
Oui, c'était la loge de Sacha Guitry avec des peintures chinoises sur les murs.
Ah oui, en effet.
Voilà. C'est la loge de Roche Dizem. Il s'en est passé des choses dans cette loge.
J'imagine.
Ouais, c'est formidable.
Des portes ont dû claquer, des gens s'enfermer dans le placard.
Il y a des moments de doute et de terreur.
C'est ça que vous retenez, vous ?
Ah bah oui, parce que ça, c'est l'endroit, la loge, où on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et moi, je suis au premier étage, dans une loge beaucoup plus modeste, mais très agréable.
Mais vous surplombez.
C'est ça.
Europe 1, 11h30, en balade avec Michel Faux. Frédéric Taddeï.
De la moquette rouge, des murs à demi rouges, des portes rouges, et tout à coup... Michel Faux, c'est écrit. Ah oui, c'est tout petit.
Non, mais il y a une autre
pièce. Quelle modestie.
Il y a une autre pièce, il y a un lit là quand même.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Enfin, c'est modeste.
Je suis resté très simple.
Oui, ça fait ces hôtels dans les années 60 pour vraiment des tout petits voyageurs de commerce.
C'est tout à fait ça. C'est peut-être ça. Hein.
Et il y a une bande dessinée, Jamais 203, de Floch et Fromental.
Qui a été faite d'après Trahison, en fait.
D'après Trahison, oui.
Mais pour revenir à...
Il y a des fraises Tagada.
Oui, ça c'est... C'est une drogue, oui.
Ah oui ?
Oui. C'est mon côté sucré et enfantin, on va dire. Et mais pour revenir à Pinter, il disait toujours j'ai écrit une farce. Et il voulait que les gens rient, il voulait qu'il y ait un humour méchant, féroce. Mais je sais qu'il n'était pas content de comment on le montait en France, parce que parfois on le montait de toute façon trop sérieuse. Et Beckett aussi, il disait ça, et Coltès aussi, et Lagarce aussi. Donc je pense qu'il y a un malentendu sur... Évidemment que c'est un théâtre terrifiant, Pinter, mais il y a de l'humour. Et là, les gens rient parfois, rient jaune, mais ils rient. Donc ça, c'est bien.
C'est une pièce qui revient en arrière.
Mmh. Qui est à l'envers.
Ouais. On commence par la fin.
Mmh. Et en fait, c'est un langage apparemment, au début, on se dit que c'est un langage très quotidien, puis en fait, il met en abîme le quotidien et les banalités qu'on peut se dire tous les jours.
Je me souviens que le Beach avait fait Sérénade à trois avec Gary Cooper. Déjà le même triangle amoureux, une femme, deux hommes. C'est fou ce qu'on peut faire. C'est sans fin, le triangle. Et ça pourrait être autant, mais même si on l'a moins fait, avec deux femmes et un homme d'ailleurs, ne croyez-vous pas ?
Mais il y a une pièce de Pinter qui s'appelle C'était hier, qui avait été créée par Jean Rochefort, Delphine Seyrig et Françoise Fabian, montée par Georges Lavelli en France, et qui est, où c'est le mari, la femme et la maîtresse. Alors on ne sait pas si c'est la maîtresse du mari ou la maîtresse de la femme, et puis à la fin de la pièce, on ne sait même pas si elle existe vraiment. Donc c'est une pièce qui rend fou. Mais
Et puis il y a Les Biches, le film de Chabrol avec Stéphane Audran et Jean-Louis Trintignant.
Magnifique, magnifique.
Les deux femmes sont couchent ensemble aussi.
Oui, oui.
C'est toujours autour de ça, au fait, le triangle amoureux.
Mais c'est-à-dire que moi, on me dit, le boulevard, ça parle toujours de mari trompé ou de cocu. Trahison, c'est encore une histoire de cocu. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais Clytemnestre et Agamemnon dans les pièces d'Eschyle, ça parle de ça, hein, c'est un mari trompé.
L'Iliade aussi, de
bien sûr. Othello de Shakespeare, ça parle de ça. Ivanov de Tchekhov, ça parle de ça. Donc je pense que c'est sur le. Tous les grands auteurs ont parlé de la trahison, qu'elle soit amoureuse ou sociale ou amicale. C'est éternel ce sujet, je ne pense pas que ce soit spécifique au théâtre bourgeois.
Vous pourriez monter des tragédies grecques, ça vous inspirerait ?
Je voulais monter Médée de Sénèque, qui est une tragédie très barbare en fait.
Ah oui, Médée c'est un sacré personnage.
Voilà.
Vous auriez joué Médée ?
Non, j'aurais joué Créon. Non, mais peut-être que j'arriverai à le faire, mais ça c'est compliqué. Mais je trouve qu'il y a une adaptation de Jean Vautier, qui est un très grand auteur complètement oublié, qui est très belle. Une adaptation très libre qui avait été créée par Maria Cazares.
Et vous voudriez là aussi que de temps en temps on rit jaune ?
Moi je pense que si la tragédie est bien jouée, on doit rire. Je me souviens de Maria Cazares dans Hécube de Ripide. Les gens parfois éclataient de rire parce que c'était trop. Même je me souviens de la plus belle Phèdre que j'ai vue, c'est Martine Chevalier dans la mise en scène d'Anne Delbé à la Comédie Française. Je l'ai vue 10 fois le spectacle et c'était pas du tout triste. Elle était possédée, Phèdre. Martine Chevalier était incroyable. Elle faisait peur, quoi. En fait, c'était c'était presque comme Alien, comme un film d'angoisse horrifique, quoi. Et donc du coup, il y avait des gens qui éclataient de rire parce que c'était trop.
Encore aujourd'hui, vous allez voir les autres jouer?
Oui, je vais voir des acteurs que j'aime. Il y en a quand même, donc je vais voir puis des choses très différentes. Je vais voir vraiment des choses très différentes. Je vais même aller de très loin voir des jeunes compagnies et puis aussi des vedettes confirmées, je sais pas, de filtres.
Quand vous jouiez Tartuffe avec Michel Bouquet au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Emmanuel Macron, le président de la République, était venu vous voir. Qu'est-ce que ça fait de savoir que le président de la République est là et qu'il va venir ensuite vous féliciter dans votre loge? Est-ce qu'on joue différemment?
C'est-à-dire que moi, Emmanuel Macron, il est venu me voir avant qu'il soit président de la République.
Oui, mais c'est pas la même chose, là.
Il n'a pas changé, en fait. Donc, du coup, je me souviens qu'on avait dit au salut, le roi est debout, on avait dit, parce qu'il s'était levé, Macron. Mais non, mais Macron, c'est quelqu'un de très cultivé. Quand il vient me voir jouer, je me souviens qu'on avait parlé de Léon Blois, de Beckett, en fait. Je pense que ça lui fait du bien aussi de parler de ça. C'est vraiment quelqu'un qui aime la littérature et le théâtre, et Brigitte Macron aussi. Donc c'était tout à son honneur d'aller au théâtre, quoi. C'est pour ça que c'est bête de lui reprocher d'aller au théâtre, parce que
c'était pas bon cas
comme ces derniers temps. Non, à l'époque il venait d'arriver, donc il était en état de grâce.
Merci Michel Faux de nous avoir emmené en balade avec vous. Je rappelle que vous jouez Trahison d'Harold Pinter au Théâtre de la Madeleine avec Roche Dizem et Claude Perron dans votre propre mise en scène. Je remercie le restaurant chez Georges, le Théâtre des Bouffes Parisiens, l'Opéra Comique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.